Et donc, Alexandre, vous êtes architecte DPLG, enseignant à l'Université de Paris-Nanterre, vous travaillez au master d'urbanisme, et vous êtes doctorant au LAVU, Centre de recherche sur l'habitat. En fait, on a été déjà partenaire en fait, sur le colloque et le programme Habiter demain la métropole avec le PUCA, et donc aussi sur une étude sur les logements vécus. Vers quel nouveau programme, à votre avis, comment va évoluer en fait la réhabilitation dans les années à venir, à votre avis? Question difficile. On vous entend pas.
Bonjour. Voilà, j'allume ma caméra, pas mon micro. Merci pour toutes ces présentations. Alors, effectivement, mon modeste apport vient de plusieurs séries de travaux qu'on a réalisés ensemble, en collaboration entre le CRH, le master d'urbanisme et l'observatoire. Ces travaux grossièrement portaient sur deux points, sur la transformation du bâti, sur la transformation du parc de logements existants, et en deuxième lieu, elles portaient sur les questions d'aide à la rénovation énergétique. Aussi au vu de ce qui vient d'être présenté, peut-être quelques points de rappel sur finalement, quelles sont les pressions qui nous amènent à transformer le parc de logements actuel? Et je les rappellerai très rapidement. Certes, il y a une obsolescence du parc bâti, notamment du parc réalisé schématiquement pendant les Trente Glorieuses. Ça représente à peu près un quart du parc de logements. Mais il y a aussi un phénomène d'accélération de l'obsolescence de ce parc, qui vient d'une part de la fragilisation des copropriétés, et là on vient de le rappeler, on a de plus en plus de copropriétés fragiles, le rapport Bray parlait d'une quinzaine de pourcents de propriétés qui seraient en difficulté à un moment ou un autre, et d'autre part, nos propres exigences environnementales rendent obsolètes des grands pans de notre parc existant. Et là, il y a très récemment, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai rencontré des réhabilitations thermiques qui portaient sur des bâtiments de la fin des années 90. Donc, j'étais assez surpris. Mais un autre pan important, un facteur important qui pousse à la transformation de nos logements vient de l'intérieur de ces logements. Il ne se passe pas sur l'enveloppe, mais à l'intérieur du logement. Et ça vient d'une fragmentation des ménages. On a des ménages de plus en plus réduits. Et pour des raisons diverses, entre l'entrée tardive dans la vie active, pour la divorcialité, l'allongement de la durée de vie. Et cela contribue à créer une grande variété de petits ménages qui sont de plus en plus importants dans notre société et pour lesquels notre parc de logement, surtout le parc dont on vient de parler, celui des Trente Glorieuses, est peu adapté. Et le parc social qui comporte plutôt des grands logements l'est encore moins. Donc c'est un facteur de pression sur le bâti puisque on cherche la densification mais dans des cellules qui ne sont pas adaptées. Et d'autre part, c'est un autre constat, celui de la mobilité réduite. Ce qu'on réglait auparavant par le déménagement, lorsqu'on changeait de vie, on déménageait, et bien, force est de constater que cette résolution est de plus en plus rare, puisque sur l'espace de 20 ans, on a observé une baisse constante des mobilités des ménages. Donc, tout cela fait qu'on reste plus longtemps dans son logement et qu'on soit amené à le transformer plus régulièrement. Et on avait vu lors des relevés habités que l'Observatoire a menés, on a pu observer des tas de transformations des habitants eux-mêmes de leur propre logement pour intégrer un confort d'usage, pour intégrer un changement de vie familiale, des découpages de pièces, etc. Et je crois que cet aspect-là de la transformation du bâti, qui pour l'instant est porté par l'initiative habitante de manière un peu sourde, un peu peu relevée ni par la recherche ou par l'action publique, à terme, je crois qu'elle devrait être plus mise en avant. Un autre point que je voulais signaler, c'est finalement l'inégalité de nos tissus urbains face à ce type de transformation, et notamment à la transformation énergétique. C'est quelque chose qu'on avait remarqué dans le travail avec l'Observatoire l'année dernière, et que finalement, lorsqu'on regardait les aides en Île-de-France, elles portaient en priorité sur des grandes copropriétés et sur des copropriétés des tissus moyennement denses, avec des bâtiments qui étaient issus, pareil, des Trente Glorieuses. Les grands absents de ces interventions étaient les tissus denses et les logements réalisés avant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons patrimoniales évidentes, mais aussi pour des contraintes de financement, tout simplement. Ça nous amène à, peut-être sur la conclusion de mon intervention, parce que on vient de voir dans les présentations qui viennent d'être faites, la variété des connaissances, qu'on améliore finalement notre connaissance du bâti, notamment celle du bâti des Trente Glorieuses, qu'on accélère, qu'on fait preuve d'une espèce d'opportunisme technique. Je crois qu'on le verra aussi dans les exemples qui suivront, pour saisir toute opportunité, tout creux du bâtiment, de chaque bâtiment, pour apporter soit une amélioration thermique, soit parfois une amélioration d'usage, comme on l'a vu dans l'exemple de Stein. Mais ce qui reste à construire, et ce qui n'est pas forcément encore, qui reste encore un sujet de réflexion, c'est finalement le moment démocratique et de concertation de voisinage et de concertation dans un immeuble face à ce type de transformation. Je pense notamment aux copropriétés qui souvent se comportent des parts de locataires, des parts de propriétaires avec des appétences inégales pour porter ce type de projet, et des questions qui seront à venir, parce que on hybride de plus en plus dans le parc contemporain les statuts d'occupation. On réalise de plus en plus d'opérations mixtes entre des logements sociaux et des logements neufs. Il y a des localités où on va aller jusqu'à la hybridation au palier entre ces différents statuts de logement, ce qui va probablement nous obliger de sortir de la, on va dire, du schéma de la copropriété, ou en tout cas de renouveler cet aspect de ce schéma de la copropriété pour aller vers une démocratie, non pas des propriétaires, mais des habitants. Ce qui est peut-être la piste, une piste à creuser, qui n'est pas encore, il me semble, pas tout à fait au point. Voilà, donc c'était quelques éléments très brefs que je livre à votre réflexion. À partir de ce qui vient de se dire, et je vous remercie pour cette présentation très intéressante.